Et bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Mistral 99.3. Nous sommes sur la dernière partie de l'émission IU Talk avec les étudiants de l'IUT. Je m'appelle Simon et je suis accompagné aujourd'hui de Cyprien à ma droite.
Bonjour à tous.
De Thomas en face.
Bonjour.
Et Louane à ma gauche.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, notre sujet va être de présenter les systèmes de consommation actuels et des systèmes alternatifs possibles, notamment avec les systèmes d'AMAP et de tiers-lieux nourriciers. Et tout de suite, une petite musique. Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral, donc nous allons poursuivre sur notre sujet, la sécurité alimentaire en France, et nous allons parler notamment des grandes surfaces. Cyprien, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît?
Donc, rebonjour à tous. Donc, comme l'a dit mon camarade Simon, je vais vous détailler un petit peu l'historique des grandes surfaces. Donc, il faut savoir que l'histoire des hypermarchés est très récente, donc elle est propre à la croissance exponentielle des 30 Glorieuses. Donc, le premier hypermarché est créé le 15 juin 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, car il faut savoir que dans les années 1960, après la période de reconstruction du pays, l'écoulement d'une production de masse qui résulte de l'abaissement des coûts de transport, mais aussi de la modernisation industrielle et de l'ouverture internationale de l'économie française, fait rentrer la société française dans la consommation, dans une société de consommation. Donc la grande distribution française semble en 1960 en retard par rapport à ses voisins, notamment allemand et la Grande-Bretagne, mais progresse très rapidement, notamment en imposant le discount. Donc c'est un modèle de vente à prix réduit dans lequel la rentabilité est issue non de la marge unitaire de chaque produit, mais de la rotation de l'actif. La marge nette des supermarchés avoisine alors les 4%, alors que les épiceries et les autres surfaces, eux, sont plus à 7%. Donc notamment grâce à l'achat d'articles en gros, donc ce qui permet de mettre des marges un peu plus petites et ainsi de concurrencer, faire une concurrence déloyale à nos épiceries françaises. Donc elle commande donc massivement les fournitures et réalise des économies d'échelle en raison de la grande taille de leurs points de vente. Donc notamment avec tous les magasins que par exemple comme Carrefour a en France, ça leur permet d'écouler une masse de produits beaucoup plus importante que les petites épiceries, et c'est là où ils vont arriver à faire leurs bénéfices. Donc aussi, il faut savoir qu'en 1970, la croissance de la population industrielle française atteint les 6,1%, donc ce qui est quand même énorme. La croissance, la natalité en France a beaucoup augmenté, et par cela aussi s'ajoute une élévation du niveau de vie. Donc les ménages sont plus friands des petites, du confort, donc les canapés, les tables, donc ça augmente aussi la gamme de produits proposés dans nos magasins. Donc la concurrence, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas du tout loyale envers de nos épiceries françaises, nos boulangeries, nos poissonneries, nos boucheries, car dans les supermarchés et hypermarchés, on retrouve tous les produits proposés de nos régions locales au même endroit. Donc les gens sont vachement plus friands de ça, parce que c'est la simplicité, mais ils perdent un peu en qualité de produits. Donc il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les hypermarchés et supermarchés représentent 70% du marché alimentaire français. Donc il reste une très fine marge pour nos commerces. Donc par ce fait de regrouper les matières premières en un seul bâtiment, donc les clients sont fidélisés dans ces grosses enseignes. Et du coup, on peut voir dans nos régions, comme nos petits villages de France qu'on aime bien, une perte de nos fromageries, de nos boulangeries et de nos boucheries qui disparaissent de plus en plus et qui étaient beaucoup plus présentes à l'époque de mon grand-père. Donc les grandes surfaces se fournissent chez les grossistes et les grossistes, eux, doivent se faire une marge. Donc ils achètent les produits, par exemple, à des agriculteurs comme le lait, ils baissent au maximum le prix d'achat de ces denrées pour eux faire une marge, sauf que ça pénalise aussi tous nos producteurs français. Donc il faut savoir aussi que en un an, on a vu 10% de moins sur les prix de revenus aux agriculteurs, alors que le prix flambe et hausse de plus de 14% en magasin. Donc ces grandes enseignes cherchent toujours à s'en mettre de plus en plus dans la poche.
Merci Cyprien pour ces explications. Maintenant, je vais vous poser une question à tous les trois. Trouvez-vous normal que les prix dans les grandes surfaces, dans les magasins, dans les supermarchés augmentent, alors que la rémunération des petits producteurs, elle, est toujours en baisse?
Eh ben, je trouve ça quand même que c'est pas normal, parce que du coup, si les gens sont un peu réduits au niveau argent de poche ou pour leur alimentation, ils vont plus favoriser une alimentation de moins bonne qualité et privilégier les super et grandes, les hypermarchés et les supermarchés pour acheter leurs aliments, alors que du coup nos épiceries, nos boulangeries qui eux, par l'inflation du coût énergétique, ont du mal à écouler leurs marchandises et à retrouver un chiffre d'affaires stable pour pouvoir en vivre de leur activité.
Moi je suis totalement d'accord avec Cyprien, de plus que le fait de centraliser comme ça tout l'achat de nos produits, ça peut avoir un côté très pratique pour les ménages et pour l'organisation des ménages. Mais du coup, ça donne le monopole à des grandes enseignes qui ensuite font un petit peu ce qu'elles veulent. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne se retrouvent pas du tout dans le mode de consommation actuel et qui aimeraient changer ça.
Et puis même dans les supermarchés actuellement aussi, on voit dans les rayons, des fois, on voit des images sur les produits avec des photos des producteurs avec leurs animaux et qu'ils essayent de vendre un peu des produits locaux qui sont de circuit court. Mais c'est généralement souvent des stratégies de marketing pour justement pour pouvoir attirer les clients qui veulent justement acheter des produits locaux en circuit court.
Alors, j'ai aussi remarqué cette tendance à avoir dans les rayons des parties de rayons dédiées à des agriculteurs, par exemple des apiculteurs qui vont mettre leur production en rayon. Mais moi, je pense que c'est plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, du marketing pour essayer de mettre le magasin dans son contexte local et de région et d'attirer un peu les clientèles pour essayer que vraiment ce magasin fasse vivre la région, alors que c'est juste une image, alors qu'en coulisses, c'est pas du tout ça.
Oui, tout à fait, parce que de toute manière, dans l'idée globale et l'idée générale que les gens se font des grandes surfaces, ils ont des points à rattraper parce qu'ils ont été souvent un petit peu malmenés et pour des causes qui sont pas, enfin qui sont vraies. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont beaucoup à jouer sur le marketing et à redorer leur image et à être près de leurs consommateurs et près des producteurs et tout ça.
Après, en plus de ça, c'est que les grandes surfaces, ont, les produits sont légèrement moins frais que dans les petits magasins régionaux, locaux. Parce qu'il n'y a pas cette proximité avec la matière première. Elle passe par des grossistes, par des grosses chambres froides pour être emballée, étiquetée et après mis en rayon. Plus le délai d'attente avec le consommateur qui va venir l'acheter plus tard. Alors qu'en boulangerie, bah, le pain il est frais, il est fait du matin et c'est, la qualité est totalement différente.
Je suis d'accord avec toi, mais je pense que pour d'autres produits comme le lait ou les œufs, par exemple, enfin, ou la viande encore, ça rassure aussi les consommateurs de savoir que c'est industrialisé, entre guillemets, et que du coup, il y a une certaine réglementation qui s'applique, et qu'à ce moment-là, les produits vont avoir un certain niveau de qualité et vont remplir des exigences qui sont attendues, alors qu'un producteur, certes, on le connaît, il peut être très sympa, mais si on ne sait pas comment il travaille... Et qu'il n'y a pas les mêmes réglementations qu'il est obligé de respecter, on ne peut pas trop savoir la qualité finale du produit. Quoi.
Après, oui, c'est vrai que tu as vraiment raison, mais les agriculteurs aussi, ils cherchent aussi à faire un peu de vente directe, donc pour essayer d'être plus transparents de leur façon de produire. Après, il y a aussi tout un système de labels qui permet de valoriser nos productions et les mettre en valeur pour aussi prouver la qualité et l'hygiène de ces produits eux-mêmes.
Et justement, nous allons bientôt parler de commerce de proximité avec les ventes directes. Mais d'abord, je vous propose une petite pause musicale. À tout de suite.
Je vis dans mon exil de luxe de barésie. Ici l'on se résigne à fumer de la résine. J'ai gratté trop de faf et noirci trop de pages. Sentez le message, le propos, le propane se propage. Le sentiment de ma révolte n'est pas très clair, il est diffus. Je suffoque à mon époque, la refuse et la réfute. J'ai pris l'avion au vol pour devenir clando dans la soute. Je veux pas devenir un passager, je veux pas finir cracheur de soupe. J'ai rêvé de dissidence en me goinfrant de mes pop-corns. L'intégrité s'est faite l'ennemi, je suis cocu et j'ai des cornes. La transgression n'existe plus, le système nous avale. Nous recrache en rond de fumée, épais cigares de la Havane dans la savane de Paname. Sur le goudron, le macadam, j'arpente les rues en toute saison dans le chaudron de mes états d'âme. Je me revois un peu débile, traînant dans le quartier latin, entre les bouquins, les vinyles ou bien Bastille au petit matin. Avec cette bande de copains, parlant des connards qu'on adule, on était tous un peu crétins de se gargariser de nos vues d'adultes. On débattait sur les pogroms, les concepts et leurs nuances. On discutait aussi football, sexe, argent et vacances. On se dandinait comme des dandys, on se voulait fluides et nomades. On rêvait tous de jet lag et de s'extraire de la vie normale. Mais de New York à Moscou et de Shanghai à London, les mojitos sont le même goût, les bars diffus, Jill Peterson. On s'est jeté dans la vie de con, pour air bureau aseptisé. On en voulait au monde entier en faisant plaisir à son banquier. Puis de Before en After, Caipirinhas ou Bavaria. Sur les murs lounge des clubs tendance, y'a Cassius Clay, Che Guevara. À 5 euros le petit négro, ils ont fait fort au café Flore. Et Jean-Sol Partre s'est décidé, je vais devenir un pick-up floor. J'avancerai s'emballise quand la musique te marginalise. Le jour de ma mort, sur mon cœur, je n'aurai pas de valise. Je partirai léger quand certains se sentiront lésés, se sentiront pleins de regrets, peut-être de n'avoir pas osé. J'ai jamais trop rêvé d'avoir l'appart et la voiture. Je suis à côté de mes pompes, moi j'aime la gratte et les ratures et l'aventure. Un jour se lève, un jour nouveau, un jour d'adolescence où sur un banc j'ai rêvé de rêveaux. Les épreuves de la vie, des ouragans qui font péter les digues me fatiguent. Et puis mes textes n'ont plus d'intrigue, les révoltes sont diluées, nuages de lait dans un café. Tu ne signes pas des autographes quant à l'avenir, autodafé. Je suis un peu paumé et j'ai le cœur à la renverse. Mais t'inquiète pas, je sais que la vie est une tempête que l'on traverse. Ce monde il est vulgaire, c'est un tapin dans un motel. Je fais partie de ces jeunes-là qui ont grandi sans un modèle. Pour mes enfants, je l'espère, je serai un exemple. Et de mes larmes et de mon sang, ok, de ça je les exempte. Je suis pessimiste, ce monde il se barre en cacahuète. Je file vers ma planète, appelez-moi dès que ça s'arrête. Génération, résignation, sans notion ni passion. Trop plein d'informations, environnement en détérioration. Condamné à trouver du sens dans ce non-sens. Certains brûlent la France à l'essence, ou consomment à outrance, ou acquérir de l'argent, de la gloire ou du pouvoir. Mais laissez-moi que je me pars, je veux perfectionner mon art. Certains appelleront ça lâcheté ou égoïsme. Je le répète, si je pouvais, j'achèterais de l'héroïsme.
Nous sommes de retour sur Fréquence Mistral 99.3 avec l'émission IU Talk des étudiants de l'IUT. Après avoir parlé des grandes surfaces, d'ailleurs merci Cyprien pour ses explications, nous allons maintenant vous parler des AMAP, un premier système de consommation alternatif. Louane, s'il te plaît.
Bonsoir. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ce que c'est une AMAP et en quoi ça consiste. Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et ça se base sur un groupe de consommateurs qui choisit de se lier à un ou plusieurs exploitants afin de former des paniers alimentaires qui vont être équitables à une fréquence qui est définie. Donc ça peut être un panier par semaine ou un par mois ou encore plus écarté. Les paniers, ils peuvent être constitués de fruits et des légumes, mais pas seulement, parce que ça peut aussi être des produits laitiers, des œufs, de la viande, etc. Tout ce qui peut être fait par des exploitants. Et ce système-là nous permet, permet aux consommateurs, du coup, qui sont adhérents, une alimentation saine, mais surtout locale et de saison, qui rémunère à juste prix les agriculteurs. Et c'est aussi des endroits qui permettent de créer un certain lien social, que ça soit entre les adhérents ou avec les exploitants qui fournissent les produits. Pour ce qui est du fonctionnement d'une AMAP, du coup, comme j'ai dit, c'est un groupe de consommateurs avec un exploitant. Tous les consommateurs sont donc adhérents à l'association et doivent payer une cotisation qui varie entre 8 et 20 euros. Et qui assure aux producteurs une rémunération minimale, on va dire, et qui permet aussi aux consommateurs de s'assurer que les paniers vont bien être fournis, quoi. Des AMAP, il en existe partout, c'est pas qu'en France. On peut en retrouver, par exemple, en Suisse, au Québec et en Belgique, sous d'autres appellations. Par exemple, en Suisse, ils appellent ça... une agriculture contractuelle de proximité. Au Québec, c'est une agriculture soutenue par la communauté. Et en Belgique, c'est un groupement d'achat solidaire de l'agriculture paysanne. Donc on retrouve toujours cette notion de solidarité, de groupement et d'association pour une consommation plus saine des produits. Pour ce qui est de l'histoire, ça a débarqué en France, les AMAP, dans les années 2000. C'est un couple de maraîchers, en fait, qui avait voyagé aux États-Unis et qui a vu ce modèle qui était là-bas et qui s'est dit qu'ils allaient le recréer en France. Du coup, ils se sont alliés avec l'association Alliance Paysans Écologistes Consommateurs et ils ont créé les premières AMAP. C'était dans un contexte où, en Provence, en 10 ans, on avait perdu plus de 15 000 agriculteurs. Et du coup, les AMAP sont venus comme une solution pour pallier à ce problème. Et c'est la Confédération Paysanne qui a porté le projet en association avec la région PACA. Et les AMAP, depuis, se sont multipliées. Et aujourd'hui, on peut en retrouver dans toute la France. Et on en retrouve aussi à Digne, parce qu'on a notre AMAP à nous, qui s'appelle Panivité. Et c'est une AMAP qui se développe depuis plusieurs années maintenant, qui a été créée par les étudiants de l'IUT de Digne-les-Bains, et à laquelle vraiment principalement les étudiants participent. C'est un lieu où on peut partager nos valeurs, on peut créer des liens sociaux et surtout bien manger. Et le plus de notre panivité, c'est qu'on a réussi à avoir des subventions via le CROUS qui font qu'en plus de tous ces avantages, les paniers que nous fournissons sont à 1 euro. Donc tous les étudiants, du moment qu'ils certifient qu'ils sont étudiants, pas forcément à l'IUT, mais dans toute la ville de Digne-les-Bains, ils peuvent avoir accès à des fruits, des légumes, du fromage ou des œufs pour 1 euro. Et un panier, en général, ça tient environ une semaine et demie à deux semaines pour chaque personne. Du coup, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur et qui permet à tout le monde de trouver son compte, parce que les exploitants avec qui on est en association aussi sont rémunérés comme il se doit. Et du coup, jusqu'à présent, c'était Calista Marie, la présidente de Panivité. Et à présent, c'est Antonin Granier. Parce qu'il faut savoir que, du coup, l'association, elle se transmet tous les ans pour que ce soit renouvelé et que ce soit un projet qui reste vivant et à l'image des étudiants qui en font partie.
Merci, Loane, pour ce petit clin d'œil à Antonin Granier et Marie Calista.
Merci beaucoup, Loane, de nous avoir présenté le système des AMAP. Mais j'avais quand même une petite question, c'est que je trouve, personnellement, pour avoir déjà rencontré ce type de système, que des agriculteurs qui mettent leurs produits en commun et qui les vendent, bon ici c'est par un système de panier, mais ça peut être aussi par exemple les magasins de producteurs, sous forme non pas d'une association donc, mais des agriculteurs qui mettent leurs produits en rayon et qui gèrent en commun un espace de vente où ils seront rémunérés, on est d'accord, d'une meilleure façon qu'aux grandes surfaces. Est-ce que ces deux systèmes qui sont fondamentalement similaire ou c'est il y a quand même quelques différences.
C'est quand même gérer les deux. C'est similaire dans le sens où c'est aussi un système alternatif à la consommation en grande et moyenne surface dont nous a parlé Cyprien juste avant. Mais les magasins de producteurs, ça va plus être à l'initiative des producteurs justement. Alors qu'une AMAP en général, c'est un groupe de consommateurs qui va se réunir et qui va chercher à s'allier à un ou plusieurs exploitants. Après, on retrouve les mêmes idées de solidarité, les valeurs et la durabilité dans nos modes de consommation et pour une alimentation saine et pour, comme tu l'as dit, une valorisation à un juste prix pour les agriculteurs.
Après, comme l'a dit Loane, il y a quand même une différence parce que les magasins de producteurs, c'est un groupement d'agriculteurs issus de plein de filières différentes qui vont créer ensemble un magasin et où ils vont mettre une hiérarchie dedans avec un président, plein de monde. Ils vont devoir faire une journée de présence en vente dans le magasin pour vendre les produits issus de tous les producteurs et afin de valoriser leurs produits parce que la marge que la grande surface ne fera pas sur les leurs, eux vont la prendre pour eux et du coup mieux valoriser leurs produits.
Moi du coup je trouve que c'est vraiment une super solution aux grandes et moyennes surfaces que Cyprien avait présenté juste avant. Mais moi après quand je reçois un panier plein de légumes et que je que je ne sais pas préparer, j'ai pas trop envie d'acheter ça, quoi. Mais du coup, est-ce que tu n'aurais pas une solution pour contrer ce problème ?
Pour ce qui est de la map et du panier UT, vu que c'était dans le réseau étudiant, on avait des moyens de communiquer avec les consommateurs directement. Et du coup, ce qu'on proposait, c'était des recettes avec les produits qu'on vendait et des manières faciles et abordables de les préparer. Après, c'est sûr que dans une AMAP à plus grande échelle ou alors où il n'y a pas de moyens de communiquer avec les consommateurs, je comprends que ça soit compliqué. Mais je pense que sur Internet, il y a de quoi faire et de quoi trouver des petites recettes pour faire de la blette.
Moi, j'ai une petite question pour toi, Louane. Dans ces paniers d'AMAP, on retrouve quel genre de produits en temps normal ? Mais est-ce que c'est des produits qui sont, comme on trouve en grande surface, qui sont calibrés, triés, formes, tailles, couleurs, qui sont déterminés pour le client, pour satisfaire le client ? Ou c'est vraiment des produits qu'on peut qualifier de déclassés en grande surface et qui sont mis à disposition de ses étudiants et de ses citoyens ?
Non, tu fais bien de dire ça. C'est ça aussi qui est intéressant pour le producteur, c'est qu'il est face à un consommateur qui va être moins exigeant, entre guillemets, dans le sens où, vu que le lien a déjà été établi, il y a une relation de confiance et il n'y a pas besoin d'avoir la certaine image. Enfin, une pomme, par exemple, il faut qu'elle fasse cette taille et qu'elle ait cette couleur et cette consistance pour être mangeable. Du coup, non, il y a aussi pas mal de fruits et légumes non calibrés, d'autant plus qu'on avait des partenariats avec des exploitants qui étaient en bio. Et en bio, c'est compliqué de calibrer, d'avoir des pommes toutes de la même taille.
Donc en face, il faut avoir des personnes avec une ouverture d'esprit différente de ce qu'on trouve en grande surface, quoi.
Oui, c'est sûr, mais je pense que du moment qu'on vend à une AMAP, on sait aussi qu'on est face à des gens qui sont sensibilisés à la question et au sujet. Et qui sont renseignés, quoi.
Mais du coup, faut montrer à plus de personnes que c'est une autre méthode viable d'acquérir de la bonne nourriture. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui participent aux AMAP et qui achètent des paniers.
Oui, c'est sûr. Bah, si je n'avais pas été à Digne, je n'aurais pas connu ce que c'était une AMAP,
voilà.
En fait. Mais c'est un souci de marketing, c'est que... Enfin, certes, on va avoir des pubs pour plein de grandes surfaces, mais une AMAP, elle va pas être là pour faire du marketing et se vendre. Et c'est plus du bouche à oreille, quoi. Du coup, c'est peut-être ça qui est dommage, oui.
Et il y a quand même quelque chose que je trouve dommage, moi, c'est que quand même, sur le système de l'AMAP, il y a de temps en temps, on perd quand même le contact entre le producteur et le consommateur. Ça passe quand même par un intermédiaire, qui est l'association elle-même. Mais est-ce que justement c'est pas dommage d'avoir ce manque de proximité entre producteurs et consommateurs ?
Après, il n'y a pas de manque de proximité parce qu'il n'y a qu'un intermédiaire. Alors que si le producteur, lui, qui fait ses pommes, le vend à une grande surface, la pomme va être envoyée dans un centre de tri, emballée, étiquetée, mise en cagette, trimballée dans chambre froide, mise en rayon. Alors que la MAP, le produit ramassé par exemple le matin, conditionné, pas lavé, enfin dans son condex, dans son jus naturel, et mis directement au bon service des citoyens et des pauvres.
Bon, ben, merci de m'avoir convaincu, en tout cas, c'est prêt.
Pas de soucis, Simon, avec grand plaisir.
Et on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale.
Roxanne, 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 Roxanne,
Et vous êtes toujours sur Fréquence Mistral 99.3. Nous sommes sur l'émission IU Talk avec les étudiants de l'IUT de Digne-les-Bains. Après avoir parlé des grandes surfaces et des méthodes alternatives de consommation, nous allons vous présenter un deuxième système alternatif qui va vous être présenté par Thomas, s'il te plaît.
Merci, c'est bon. Du coup, on va vous parler des tiers-lieux et plus spécifiquement des tiers-lieux nourriciers. Car on a un rôle dedans ici à Digne. D'abord, je vais parler des tiers-lieux. Ce sont en fait des espaces de rencontres, d'échanges et de collaboration entre différentes personnes, où il y a des offres de services et de ressources. C'est un environnement propice à la créativité, à l'apprentissage. Et ce sont des lieux qui peuvent venir sous différentes formes, comme par exemple un café, un espace de coworking comme ou de co-farming par exemple, comme dans un jardin partagé, ou encore ça peut être une bibliothèque ou un atelier d'art. Ce sont des lieux où il y a une atmosphère inclusive, accueillante, qui regroupe différentes personnes de différentes de catégories socio-professionnelles différentes, et il y a des créations du coup de connexions entre ces personnes, avec des partages de connaissances et d'expériences qui sont enrichissantes pour tout le monde. Après, les gens de ces endroits collaborent sur des projets communs, comme on va vous l'expliquer plus tard avec notre projet. Ces lieux permettent aussi des épanouissements personnels et professionnels des gens. Leur but final est de en fait, créer une communauté dynamique et soudée, en revitalisant les quartiers, améliorant le développement local et développant les opportunités économiques.
Le tiers-lieu que tu nous proposes, c'est vraiment pour dynamiser les quartiers d'une ville ou du.
Les tiers-lieux, en fait, ils répondent à des besoins locaux qui ne sont pas adressés par les personnes qui sont déjà là ou les entreprises déjà ici. Du coup, c'est pour ça qu'il y a ce qui va nous intéresser plus, nous, c'est les tiers-lieux nourriciers qui sont issus de la remise en question du système alimentaire dominant, que sont les grandes surfaces que tu nous as présentées. Leur objectif est du coup de relier l'alimentation à l'agriculture, enfin de les rapprocher, un peu comme la MAP, en utilisant les circuits courts et en réduisant la distance, quoi.
Et de manière plus poussée du coup qu'une MAP ou qu'un.
C'est ça, en fait, il y aura encore plus de contacts entre les clients, on va dire, et les agriculteurs et les
participants. Oui, établir un vrai lien social.
C'est beaucoup plus social, ouais, en fait. Ouais. Par exemple, qu'une MAP, on va beaucoup plus voir les agriculteurs et il y aura plus d'interactions. Nous, dans tout ça, on a un rôle.
On parle, quand il dit nous, c'est nous quatre.
Oui,
nous
quatre.
Nous avons un rôle directement en tant qu'étudiants.
Nous quatre étudiants de l'IUT de Digne-les-Bains, on a un projet qui est en lien avec du coup l'IUT. On a une tutrice IUT, une professeure, et on a aussi une personne qui nous a prêté une cave dans le centre de Digne-les-Bains.
Madame dédicace à Marie-Thérèse.
Madame Tabini, qui nous prête très gentiment sa cave gratuitement pour pouvoir démarrer une production de champignons et d'endives. Pour l'instant, nous ne sommes que aux phases d'essai, de test. On a déjà pas mal avancé et on a même rencontré plusieurs acteurs. On a rencontré Monsieur Battaccini, un agriculteur de Fort-Calquier, qui fait des champignons justement et des endives dans un tunnel, de la SNCF qui est abandonné. Et on a appris beaucoup de choses grâce à lui. Et du coup, maintenant, on va essayer de transmettre ce savoir et de l'implanter dans le vieux centre de Digne, ici. À la fin, quand on aura réussi à déterminer si, oui ou non, la production de champignons et d'endives sera réellement possible dans cette cave, on comptait faire des partenariats avec différents acteurs, comme par exemple une cuisine partagée qui pourrait être une cuisine populaire, pardon, qui pourrait être sur le même lieu, et aussi par exemple avec la MAP de l'IUT, des étudiants.
Du coup, c'est un projet qui a quand même une ampleur assez large, puisque elle s'intéresse d'abord principalement au quartier pour intégrer les gens du quartier, pour leur donner un travail et un lieu où ils pourront produire eux-mêmes leurs sources d'alimentation, leurs aliments. Mais du coup, ça s'étend quand même jusqu'à la ville, et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont prêts à prendre part au projet, qui prend du coup de plus en plus d'ampleur, mais on voit quand même qu'il y a une grande solidarité au niveau de ces personnes.
Oui.
On a pu assister par exemple à une réunion avec les acteurs de, qui n'est pas encore une association, mais qui vise à...
Potentiels futurs acteurs.
Voilà, qui vise à devenir une association. Et en fait, on a pu se rendre compte, parce que pour l'instant, on suivait plutôt le projet de loin. On se concentrait sur nous, nos tests et nos cultures. On a pu se rendre compte qu'il y avait vraiment des gens motivés derrière tout ça et que ce qu'on faisait, ça pourrait permettre à pas mal de personnes de créer leur projet et qui voyaient les choses en grand, quoi. Du coup, ça nous a un petit peu remotivés.
Et notamment, de voir des personnes qui viennent d'horizons très différents, très larges,
ouais,
et qui amènent chacun leurs idées, leurs envies, leurs valeurs aussi. Et donc ça donne une ampleur vraiment très large au projet que personnellement je suis très heureux de mener avec vous.
Merci Simon.
Mais aussi le plaisir est partagé.
Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le but principal, c'est de revitaliser, de donner de la valeur justement à la cave qui est abandonnée et le dessus, l'étage au niveau de la rue là. Où c'est c'est vide et il faudrait l'utiliser cet espace pour rapprocher le quartier et le rendre un peu plus dynamique.
Oui, mais je trouve ça chouette aussi que les gens ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses et qu'ils savent faire des choses de leurs mains et qu'ils peuvent produire beaucoup plus de choses qu'ils pensent être capables de le faire, quoi.
Et tout ça dans la fraternité et la cohésion.
J'adore, c'est
bon. Après aussi, il faut savoir que dans ce projet, le but à terme, c'est qu'une fois que nos critères de test sont validés, c'est d'arriver à mettre cet espace où on a travaillé en espace test. Donc pour essayer qu'un agriculteur, s'il en a envie et pas les moyens ou pas la structure nécessaire, de venir faire un an, deux ans ou trois ans de test de production pour voir si ça lui plaît, s'il peut s'en sortir et si c'est viable.
Mais ça sera à voir avec l'association, mais je crois qu'ils vont vraiment faire passer des appels pour voir s'il y aurait un agriculteur intéressé pour ce projet-là. Parce que d'abord, il y a pas mal de rénovations à faire au sein de la cave, parce que nous, on se contente un peu de ce qu'on a, mais pour quelqu'un qui travaille tous les jours, c'est pas forcément trop pratique et trop viable. Mais c'est sûr qu'après, ils chercheraient, eux, à implanter un agriculteur qui serait là tout au long de l'année pour produire tout au long de l'année et transmettre son savoir et faire de la cuisine partagée et tout ça.
Mais écoutez, merci à tous les trois d'avoir
merci
participé.
Merci à toi, Simon.
Merci, Louis.
Merci, Cyprien.
Et donc, nous vous remercions d'avoir écouté notre projet EU Talk avec les, avec les étudiants de l'IUT de Digne-les-Bains. Et on vous laisse en musique avec Trio. Et au revoir et bonne journée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, pardon, sur Fréquence Mistral.
Tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi,
comme
celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!